grâce et la miséricorde de Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu. On va commencer le verset 8, le psaume chapitre 145. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Alors, ça c'est le Louis II. Il y a la version un peu plus moderne de Seconde 21, qui dit « L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. » Alors, ces deux mots, « grâce » et « miséricorde », le sens c'est très proche, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et j'avoue que des fois, je ne comprends pas la grâce de Dieu. J'ai toujours eu mal de comprendre pourquoi Dieu m'aimait. Si j'étais Dieu, je ne suis pas sûr que j'aimerais. Je m'aimerais, oui, moi-même. Hein, parce que Dieu, il est parfait, tu vois. Il est plein de miséricorde, compassion, et lent à la colère. Et des fois, je suis vite à la colère. Et vous aussi? Et plein de bonté. Des fois, je suis plein de bonté. Et des fois, je ne le suis pas. Et je dis, Seigneur, si je ne suis pas comme toi, est-ce que tu peux avoir grâce? Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux être bien vers moi? Parce que oui, de tout mon cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, j'essaie de marcher comme le Seigneur le veut. Et quand je ne le fais pas, je demande pardon et je recommence. C'est normal, mais tu sais, je veux être plus. Seigneur, comment peux-tu m'aimer? Celui-là qui est tellement beau, oh oui, tu peux l'aimer. Celle qui est tellement belle, tu peux l'aimer. Cette personne qui fait ça pour toi, cette personne qui prie toutes ses heures et qui rend témoignage dans la réunion après, oui, oui, et elle est bien, mais moi, comment le Seigneur m'aime, la grâce, comment le Seigneur peut avoir grâce sur moi, pour vous? Laisse-moi vous raconter une histoire. Combien de vous, les femmes, vous avez déjà eu un enfant? Laisse-moi voir la main. Hein? C'est très bien d'avoir un enfant, n'est-ce pas? Je me souviens de mon épouse. Nous sommes mariés, j'avais 21 ans, elle avait presque 20 ans. Ça fait il y a 53 ans de cela. Et après 6 mois, elle est revenue du médecin, elle croyait qu'elle était malade, mais elle n'était pas malade. Elle dit, on va avoir un bébé. Et on était contents, parce qu'on n'avait aucune idée de ce que ça représentait, avoir un bébé quand on a 22 ans, n'est-ce pas? Oh, wow, grand sourire. Mais il y a des petits problèmes, je ne parle pas de ma femme, mais je parle des femmes en général, parce que je ne veux pas avoir des problèmes à la maison. Mais ça commence bien. Mais puis, après quelques semaines, le matin, et là tu entends dans la salle de bain, tu entends des bruits comme des dinosaures qui mangent des canards ou quelque chose, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Le matin, c'est pas bien quand on est enceinte, n'est-ce pas? Et puis, cette petite silhouette d'écolière devient une silhouette. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez ce qu'il y a. Et là, elle s'agrandit. Et messieurs, écoute, si vous dites quelque chose, vous méritez ce qui vous arrive. Là où vous serez par terre, répondez-vous et dites, chérie, non, tu es plus belle que jamais. Les femmes enceintes sont les plus belles de tout. Et puis, vers la fin, 8 mois, 9 mois, tu marches comme un canard, tu ne peux pas manger parce que chaque fois que tu t'allonges sur ton lit, le petit monsieur il te donne des coups de pied, il joue au hockey, aux États-Unis il joue au football américain, en France il joue au foot soccer, mais ici il joue au hockey, et là il donne des coups de pied, alors vous tournez à droite et il donne des coups de pied, et puis vous courez aux toilettes et oh là là, c'est misérable. 9 mois, 2 semaines de misère. Et puis, le petit ou la petite, ils sont nés. Et bon, je ne l'ai jamais fait moi-même, mais j'étais pas loin quand on a mis 3 dans le monde. Il paraît que ça fait très mal. C'est aïe, 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 aïe. J'ai dit, oh Seigneur, tu as eu pitié des hommes parce que. On a dit chez nous, si les hommes donnent naissance aux enfants, il n'y aura qu'un seul dans chaque famille. Hein? Parce que, et puis, ils ne vous laissent pas. Et vous direz, oui, maintenant, ça y est. Mais regarde-le, il n'est même pas beau. Il n'a pas de cheveux, pas de dents, tout ridé, il pleure tout le temps. On dit que c'est son père tout craché. Il ne vous laisse pas dormir la nuit. Hein? Vous voyez cette petite dame avec cet enfant dans les bras. Si vous voulez faire mal à cet enfant, il faut d'abord tuer cette maman. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet amour? Au début, il ne sait même pas sourire. Tout ce qu'il fait, c'est pleurer et salir les couches. C'est tout. Et tu courais, puis tu sers là comme un roi et tout ça. Tout 9 mois de misère. Et maintenant, elle aime plus qu'elle s'aime elle-même. Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose dans cet enfant? Non, il n'est pas beau. Bon, le vôtre, c'est peut-être l'exception, mais les miens étaient moches. Mais, non, ils étaient très beaux, les miens. Mais il n'y avait rien qui attirait pour nous faire aimer cet enfant. Vous savez qu'est-ce que c'est? D'où vient cet amour? Ce n'est pas quelque chose d'aimable dans l'enfant. C'est quelque chose dans le maman qui aime. C'est quelque chose dans cette maman qui aime. C'est pas l'enfant, c'est la maman. Et mes amis, des fois, nous croyons Dieu nous aime parce que nous sommes tellement beaux, nous sommes tellement gentils, nous sommes tellement sages. Nous prions 3 heures, nous lisons toute la Bible, toutes les 2 semaines, nous faisons ceci, nous faisons... Dieu vous aime parce que Dieu aime. Ce n'est pas quelque chose en moi. Oui, il est content quand nous faisons du bien. Mais ça, oui, mais ce n'est pas à cause de nos beautés. Pas à cause de ce que nous sommes que Dieu nous aime, c'est quelque chose en Dieu. C'est quelque chose en Dieu qui aime. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quand Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. Et la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. J'explique. Tu es au supermarché avec ton petit de 3 ans. Et oh là là, les enfants, ils pleurent toujours au supermarché, n'est-ce pas? Parce qu'ils croient, tu ne vas pas leur donner un fessé au supermarché. Alors ils sont bien, ils font ce qu'ils veulent. Le petit indien, le petit, je ne sais pas, il fait. Et alors, wow! Et tu dis, à la maison, ça va être Armageddon, mon frère. Mais si à la maison, il s'est rendu compte de ses bêtises, « Maman, s'il te plaît, ne me donne pas un fessé, je serai bon. » Et dans ton cœur, de maman, tu as miséricorde sur cet enfant, cette fois-ci. Il ne faut pas recommencer, hein, mais la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Et mes amis, moi, j'ai mérité le péché. J'ai mérité la mort éternelle, pas le péché, mais j'ai mérité la mort éternelle à cause de mon péché. Je vivais loin de Dieu. J'étais perdu, j'étais en chemin, le grand chemin qui va vers la destruction éternelle, l'enfer. Mais Dieu, alléluia. C'est mon Éphésiens chapitre 2, verset 4. Il dit, nous étions tous des enfants de colère. Nous étions tous sous la colère de Dieu. Mais Dieu, les deux mots peut-être le plus fort dans tout l'univers. Mais Dieu, quand nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Il nous a ressuscités à la droite de son Père. Mes amis, Dieu nous aime, sa miséricorde. Mais encore plus, la grâce de Dieu, c'est quand Dieu nous donne quelque chose que nous n'avons pas mérité. Peut-être, disons, nous croyons, oui, si j'ai fait tant de bonnes œuvres. Il y avait une mamie dans notre église au Luxembourg. Les Luxembourgeois sont très, bon, ils sont très, très, très catholiques. Et elle m'a dit une fois, elle était à Rome, et elle montait des escaliers à genoux, mais elle a dit à la fin, tout ce que j'avais, c'était des trous dans les bas, j'avais rien d'autre. Et nous essayons, vous savez, je crois que pour chacun de nous, on dit les catholiques, les religions traditionnelles, mais moi je dirais presque toutes les religions qui n'ont pas la foi, toutes les religions qui ne dépendent pas de la foi, c'est leurs œuvres. Tu demandes, tu vas dans la rue et demande aux personnes là. Et vous le dites, écoute, je ne sais pas si vous croyez au ciel ou non, mais s'il y a un ciel, et si ça existe, qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté devant Dieu dans le ciel? Et probablement, 9 personnes sur 10 diront, il faut être bon. Et comme j'ai parlé avec une personne au Texas une fois, un jeune homme là, et j'ai dit, écoute, si vous vous tenez devant Dieu aujourd'hui, et Dieu vous dit, pourquoi dois-je vous laisser entrer dans mon ciel? Que diriez-vous? Et le jeune homme, il pensait un moment, il dit, bon, je fais de bonnes choses, je fais de mauvaises choses. Et ses idées, c'était, j'espère que les bonnes choses que j'ai faites pèsent plus que les mauvaises choses que j'ai faites. Mais mes amis, ce n'est pas mes œuvres qui vont me permettre d'aller au ciel. Parce que la Bible dit que tous ont péché. Chaque personne a péché. Il n'y a pas d'exception. Et quand nous avons péché, le péché ne peut pas entrer dans le ciel. Il doit être une autre solution pour cela. Parce que si je fais des bonnes œuvres et je donne tout mon argent et je vais quelque part en missionnaire que je ne veux pas aller et je fais ceci, je fais cela à la fin de la journée, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que je ferai avec des bêtises que j'ai faites? Peut-être pas des grandes bêtises, certains diront, oui, mais même des petites choses. Hein? Parce que le ciel, c'est l'habitation de Dieu. C'est l'endroit de perfection. Comment moi, qui est pécheur de nature, comment moi, je peux entrer dans la présence d'un Dieu qui est saint et pur et sans péché? Comment moi, je peux entrer dans un endroit où il n'y a pas de péché? Mes amis, je ne peux pas, je ne le peux pas. La seule façon que je peux être sauvé, c'est d'avoir un nouveau cœur, d'être changé, d'être purifié, d'être pardonné par Dieu, que Dieu fait de moi son enfant. Parce que le David Porter que vous voyez aujourd'hui n'est pas le David Porter d'il y a quelques années. Parce que Dieu m'a sauvé le jour où je suis venu et j'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Entre dans ma vie. La Bible dit, si un homme ou bien une femme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvel. Et quand Dieu nous voit, il nous voit en Christ, il voit la perfection de Christ, il voit la justice de Christ. Et la Bible dit en Romains, même encore plus, si vous voulez, Dieu nous justifie en Christ. Alors, ça semble comme la grande théologie. La grande théologienne, il utilise des mots que nous ne comprenons pas, mais nous disons « Amen », comme si nous comprenions. Mais la justification, quelqu'un a dit, il y a cette idée de prononcer un jugement et de juger pas coupable. C'est, par exemple, vous et moi peuvent penser, c'est fou, mais par exemple, vous et moi, nous allons ensemble à la banque pour quelque chose. Et là, quand nous entrons dans la banque, tout d'un coup, il y a un voleur qui vient avec un gros pistolet et il vole l'argent et il commence à courir et vous, il tire et vous recevez une balle dans l'épaule et il tire sur l'autre personne et cette personne est morte. Et puis, il court, mais les policiers l'attrapent. Et vous et moi, nous sommes appelés pour rendre témoignage à la justice. Là. Et monsieur le juge, il regarde et il dit, David, est-ce que vous avez vu cet homme? Oui, je l'ai vu à la banque. Hein? Oui. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé tout l'argent, il a tiré, mon ami a eu une balle dans l'épaule, un autre est mort, et c'était cet homme-là qui l'a fait, je suis sûr, il est coupable. Et le juge, il dit, écoute, monsieur, est-ce que vous avez fait ça? Et le voleur, il dit, ah oh, oui, monsieur le juge, oh oui. Parce que, enfin, moi, j'ai une femme et 17 enfants. Et ces enfants, ils ont mal, ils doivent manger. J'ai fait ça seulement pour mes enfants. Mais écoute, si vous me pardonnez et vous me laissez partir, moi, je n'avais jamais fait cette bêtise comme avant. Et le juge, plein de compassion, il regarde cet homme. Et il dit, oui, j'ai compassion de vous. Allez-vous-en, allez, vous êtes libres. Alors, vous et moi, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas juste. Parce qu'il semble être une loi éternelle dans l'univers que le mal doit être payé. C'est terrible de le dire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime bien les vieux westerns? Laisse-moi voir la main. Ah, moi aussi, j'aime bien. Parce que les westerns, ça marche comme il faut. Quand je suis allé en France, les Français, ils aiment bien les fins de livres qui sont un peu floues, là, avec, on ne sait pas, ou bien l'héros, il est mort, ou le mal. Non. Les westerns, ça marche comme il faut. Il y a un bon, avec un chapeau blanc, il y a un mauvais, et il y a une belle fille. Okay? Et tout le film, le bon et le mauvais, ils se combattent et à la fin, le bon et le mauvais, il reçoit dans le foie, pas la foie, mais le foie, il est mort. Et le bon, il prend la fille et il monte à cheval et il part vers le soleil couchant. Ah, ça, c'est un film. Pourquoi? Parce que tout est réglé. Le mauvais a payé. Et il y a quelque chose en nous. Même aujourd'hui, c'est les policiers, c'est la version moderne des westerns. Et tu entends des policiers qui disent aux victimes, on va avoir justice pour vous. On va avoir justice pour cette personne qui a été tuée. Et moi, selon le monde, je suis pour. Seulement si... C'est comme ça, éternellement. Vous me pardonnez l'expression, je ne sais pas si on le dit ici ou non, mais vous êtes cuit. Vous êtes fini. Parce que chacun de nous, nous avons péché. Et notre péché méritait une punition éternelle. Mais Dieu nous a tellement aimés. Là, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas comme nous étions bons. Paul a dit, peut-être pour quelqu'un de bon, il est possible que quelqu'un meure pour une personne de bon. Mais Christ il est mort pour nous, que nous étions encore pécheurs. Oh, alléluia. Et vous voyez la justice de Dieu, parce qu'il y avait une punition pour mon péché. Il y avait une punition pour ton péché. Et cette punition est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Si vous avez pu voir dans le monde spirituel à la croix, vous auriez cru, peut-être, vous auriez vu deux voleurs qui avaient le péché. Mais là, si vous avez vu Jésus dans le monde spirituel, il aurait eu tout le péché du monde sur ses épaules. Parce que vous voyez, Jésus n'est pas le seul qui est mort dans la croix. Non, pas du tout. Dans le temps, j'ai dit, ouais, la croix, c'était important parce que Jésus, il a tellement souffert pour nous. Oui, mais il y avait beaucoup qui ont souffert à la croix. Beaucoup. Sur les Romains, probablement des centaines de milliers qui sont morts atrocieusement et terriblement. Mais il y avait une différence de la mort de Jésus. Parce que Jésus, à la croix, était en train de travailler. Et quand il est mort, à la fin, il a crié, « C'est accompli !» Quand j'étais jeune, je lisais seulement la version anglaise de la Bible qui disait, « It's finished !» Et je dis, « Oh, oui, c'est triste, sa vie est finie. » Je croyais qu'il parlait de sa vie. « It's finished !» Non, non. Parce qu'en français, je crois que c'est traduit mieux, meilleur que ça. « C'est accompli !» J'ai fait une œuvre et Jésus a fait une œuvre à la croix de Calvaire. Il payait le prix de tes péchés, de mes péchés. La seule façon que nous puissions payer ce prix, c'était de mourir et aller éternellement en enfer. Mais Dieu ne voulait pas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons échangé la mort éternelle pour la vie éternelle quand nous avons mis notre confiance en Jésus. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la miséricorde. Il ne nous a pas donné ce que nos péchés ont mérité. Il a donné ça à Jésus. Et il nous donne ce que nous n'avons pas mérité, le pardon de péché, une relation intime avec notre Créateur, le Dieu de l'univers, la guérison, tout ce qui est en Dieu, Dieu nous a donné ça en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Mes amis, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Mon meilleur ami en France, c'était un homme qui s'appelait Guy Bergamini. Et ici, au Canada, j'entends beaucoup d'entre vous. Il y avait évidemment une poussée spirituelle, une percée spirituelle vers 1980 ou quelque chose comme ça. Et beaucoup de Canadiens sont venus au Seigneur. En France, dans l'est de la France, il y avait une action du Saint-Esprit comme ça dans les années 70 au départ. Mais mon ami Guy, il a été sauvé. Avant Guy, il a dit que quand il a eu 4 ans, c'était la première fois qu'il est vraiment devenu ivre. Il est revenu à la maison ivre. Son papa était un homme méchant et qui battait sa maman. Et Guy commençait de se bagarrer, d'être dans les drogues, les choses comme ça. Et sa vie allait de pire en pire en pire. Il cherchait. Un jour, quand il avait 17 ans, son papa commençait de battre, de frapper sa maman de nouveau. Et Guy, il a dit, ça suffit, c'est assez. Il sautait sur son papa et il essayait de le tuer parce qu'il en avait marre. Sa maman l'a retiré, mais Guy, il est parti en claquant la porte et dit, je ne reviendrai jamais à la maison. Il commençait d'aller à droite et à gauche. C'était le temps des hippies, les cheveux longs, les drogues et tout ça, toute une culture qui était là. Et Guy, sa vie était presque, il rêvait d'aller aux Indes pour se suicider. J'arrive pas à dire pardon. Et sa vie était terrible. Il était avec une fille de 15 ou 16 ans, et puis ça n'allait pas. Et il devait se séparer parce que ses parents à la fille, il dit non, ça va pas du tout. Mais ils étaient là dans un cours d'une place publique à Montbéliard en France. Et il y avait une petite dame dans la cinquantaine et le Seigneur lui avait dit, allez, parlez. Parce qu'elle avait prié quand elle voyait. Vous savez, mes amis, Église, laisse-moi faire une petite parenthèse. Nous voyons le monde et nous disons, oh, c'est terrible. Oh, j'aurais jamais pensé ça. Oh, c'est terrible. Vous savez, nous pouvons faire quelque chose. Et ce n'est pas seulement pour voter pour le bon candidat qui va arranger. Le bon candidat va arranger rien. Ce qui va arranger, c'est le bon Dieu. Le Dieu qui est bon, excusez-moi, parce que je veux être vraiment précis, le Dieu qui est le Dieu de tout. Et cette dame, elle priait avec son mari. Et un jour, le Seigneur dit, allez dans la rue. Elle commençait, une toute petite dame, c'était la directrice d'une école primaire, je crois, dans cette ville. Mais elle commençait d'aller parler avec ces gens dans la rue, parler de Jésus, parler de ce que le Seigneur a fait. Et étonnamment, ils commençaient de se convertir à ces gens. Et commencer d'avoir des petites réunions à la maison, et le donner à manger. Écoute, un jeune homme, vous lui donnez à manger, et il vous suivrait partout. Hein. Il aime bien manger, les jeunes. Mais là, elle est venue à mon ami, et Guy, bon, il avait un héritage italien, alors les longs cheveux noirs, les yeux noirs, une grosse barbe noire. Elle est venue vers lui avec ses images psychédéliques écrites sur son blue jean. Il attendait son dealer. Il a regardé un peu partout, il ne trouvait pas son dealer, il était fâché. Et la petite dame est venue et elle a dit, jeune homme, Jésus t'aime. Et lui, il rigolait. Il n'y a ni Dieu, ni diable. Mais elle ne se reculait pas. Elle commençait de lui dire combien Jésus l'aimait, combien il est précieux pour Dieu. Et merveille des merveilles, elle lui donnait l'adresse de sa maison. Le mardi après, elle était à la maison. Il était à la maison avec sa copine pour manger, pour écouter. Et Guy, il a dit, on a bien mangé, mais il a dit, après, j'ai entendu l'évangile. Comment un Dieu peut me libérer de tout? C'est parce qu'il était misérable. On croit que la liberté, c'est la drogue, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Non, pas du tout. La liberté se trouve en Dieu, notre Sauveur. Et là, il a entendu le message de Jésus. Il a dit, pour la première fois de ma vie, il a dit, j'ai prié la première vraie prière de ma vie. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, Seigneur, délivre-moi de ces chaînes. Et mes amis, en ce moment, c'est la seule prière qu'il peut prier, mais ça venait de cœur et ses chaînes sont tombées par terre. Dieu a fait une nouvelle créature de mon ami Guy Bergamini. Il a été changé par la puissance du Saint-Esprit. Je peux continuer de vous dire ce qu'il a fait pour Claude Huot, pour Gérard Vigneault, pour Daniel Vigneault, pour Elisabeth Bergamini, pour plusieurs autres, encore et encore et encore. Cette dame parlait, il y avait des ramifications un peu partout de ce réveil. Dieu les a sauvés. Laisse-moi vous donner une bonne nouvelle. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Peut-être moi et vous, nous ne sommes pas hippies, mais nous avons besoin de Jésus. Et si nous avons Jésus, on a tous besoin de quelque chose. Peut-être que c'est une guérison ce matin. Jésus est là. Il est toujours fort et puissant parce que quand il est mort à la croix de Calvaire, mes amis, il a porté nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Il a porté tout ce qui nous fait mal. Mes amis, Jésus l'a fait. Il est puissant. Il est là. Il est là pour nous. Paul parlait de comment la grâce de Dieu avait abondé chez lui. Et cette grâce abondante est ici ce matin pour moi, pour toi, pour toi. Tu peux dire, David, je ne me sens pas digne. Oui, tu ne l'es pas, moi non plus. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont dignes. C'est lui qui nous rend dignes. Amen. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous justifie, qui nous dit pas coupable. Comment peut Dieu, le juge, dire pour moi et pour toi, tu n'es pas coupable parce que j'étais coupable. La raison, c'est que je suis une nouvelle créature. Le David qui avait fait tout ça, spirituellement, il est mort et maintenant il est ressuscité par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et je vis par sa puissance. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre besoin. Mais je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je sais ce que Jésus a fait pour mes amis. Je sais ce qu'il a fait pour des millions. Je dis bien des millions de gens dans la terre. La plupart d'entre nous, nous pouvons rendre témoignage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Père, je remercie, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je ne l'ai pas mérité. Oh, mais je suis tellement content pour elle. Seigneur, je suis content pour ta miséricorde. Seigneur, je n'ai pas mérité le pardon parce que j'étais contre toi. Mais Seigneur, tu avais miséricorde pour moi. Seigneur, je suis pardonné. Et Seigneur, je prie ce matin, je ne connais pas de cœur, c'est toi qui connais. Mais je sais que ce n'est pas un hasard que nous sommes ici. Chacun de nous, nous sommes ici par un rendez-vous céleste. Et je crois que des cœurs s'ouvrent vers toi. Certains ne te connaissent pas. Et je crois qu'ils ouvrent le cœur vers toi ce matin pour connaître ta grâce et ta miséricorde. Et Seigneur, d'autres, ils t'aiment et te suivent. Mais Seigneur, ils sont vraiment dans un combat difficile et ils ont besoin de la grâce. Et Seigneur, nous ne venons pas parce que nous méritons ça, c'est Jésus qui le mérite. Mais en Jésus, nous venons ce matin et nous disons, « Oh, secours, Père, tu as même appelé ton trône le trône de la grâce. » Seigneur, Père éternel, tu es assis sur un trône de la grâce. Tu es plein de miséricorde, de compassion. Tu es pour nous et pas contre nous. Tout comme cette petite mère qui donnait naissance à cet enfant, aime cet enfant à la folie. Père, tu nous aimes à la folie, si on peut dire ça. Viens ce matin au nom de Jésus. Restons dans la prière un moment, s'il vous plaît. Mais personne qui regarde ni à droite ni à gauche. Mais si vous êtes ici, c'est un... Mais vous voulez dire, David, écoute, moi je veux commencer une relation avec le Seigneur. Soit tu n'es pas sûr de ta relation, ou bien tu es sûr que tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Mais ce matin, tu veux t'appuyer sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Tu veux le pardon. Tu veux le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur, qui te lave, qui te purifie, qui te pardonne, qui t'emmène dans la présence de Dieu, le Père, et qui te montre combien Dieu t'aime. Si ça c'est vous, simplement levez la main et retirez-la après. Moi je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous embarrasser, mais j'aimerais bien prier pour vous. Est-ce qu'il y en a ce matin qui diront, oui, s'il te plaît David, prie pour moi. Prie pour moi, prie pour moi. Alléluia. Amen, merci. Amen. Est-ce qu'il y a des autres? Alléluia. Alors, on a 5 minutes, mais je crois que le Seigneur, il aimerait bien faire quelque chose pour vous aussi.